L'air de la vérité, c'est votre émission d'exhortation, d'édification et de méditation profonde.
Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous.
C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, verset 32. Vous tous qui aimez la vérité et suivez la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
L'heure de la vérité, c'est votre émission d'exhortation, d'édification et de méditation profonde.
L'heure de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans complaisance, sans compromis et sans concession.
Collectez-vous toujours, très nombreux, et recevez la délivrance, et recevez la vie, et surtout, n'oubliez pas de passer le message autour de vous, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.
Très chers auditeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez une fois de plus mes sincères et chaleureuses salutations. Bien entendu, dans le magnifique nom de notre Seigneur, Sauveur et Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, une fois de plus, je suis là pour m'entretenir avec vous au travers de la sainte parole du Dieu vivant. Et je prie vraiment, vraiment que vous ouvrez grandement vos cœurs et vos oreilles. Parce qu'une fois de plus, le Seigneur va vous parler d'une manière un peu spéciale. Parce que nous allons parler du grand patron de cette émission. Nous allons parler de la vérité, vérité avec grand V et tout en majuscule. Et s'il faut le faire même pour plusieurs semaines, je crois que c'est très très important jusqu'à ce que vous puissiez vraiment saisir cela comme cela se doit. Je ne peux que vous encourager à être très attentif. Parce que aujourd'hui, nous allons parler du grand patron de cette émission, l'heure de la vérité. Et nous allons parler vraiment de la vérité, vérité avec grand V et tout en majuscule. Vérité, la vérité qui est une personne. Vous l'avez peut-être deviné, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous allons parler du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi parler du Seigneur Jésus-Christ? Nous connaissons tous ce fléau qui mine notre société, à savoir la contrefaçon. Pendant que certaines sociétés se battent pour mettre un produit de qualité sur le marché, certaines personnes se sont spécialisées de leur côté à la fabrication de ce même produit, mais le faux. C'est ainsi qu'on peut trouver sur le marché les vrais appareils et les faux. Les vrais téléphones, les téléphones d'origine, les faux. Les vraies batteries, les batteries d'origine, les fausses. Les pièces de rechange des motos, des véhicules d'origine et également la contrefaçon de tout cela, les fausses pièces. Le faux a beau être moins cher. En général, il ne met pas long et ne donne pas une entière satisfaction. Oui, tout le monde est d'accord à ce niveau. Tout ce qui est faux, tout ce qui est contrefaçon, a beau être moins cher, il ne met pas long et il ne donne pas une entière satisfaction. Et ce qui est catastrophique, c'est que la contrefaçon ou le faux a réussi à atteindre même les choses de Dieu. Oui, je dis bien que le faux ou la contrefaçon a réussi à atteindre même les choses concernant Dieu. Donc, ne soyez pas surpris de comprendre qu'il existe même des fausses Bibles. Oui, il y a des fausses Bibles sur le marché, des Bibles que les gens ont faites tout simplement pour soutenir les dogmes et les doctrines religieuses. Les Bibles qui n'ont pas été traduites selon Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Je vais prendre un cas en passant. Par exemple, la traduction du Monde Nouveau, c'est une Bible vraiment contrefaite. Parce que elle n'a pas été traduite comme cela se doit. Elle a été traduite juste pour soutenir une doctrine religieuse, pour soutenir les dogmes religieux d'une secte qui prêche la parole de Dieu. Dans la traduction du Monde Nouveau, dans l'évangile de Jean, le premier chapitre, à partir du premier verset, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était un Dieu. Voilà ce qui est dit dans la traduction du Monde Nouveau. Un Dieu avec petit d, alors que dans la vraie traduction, ce Dieu c'est avec grand D, parce qu'il s'agit de Dieu créateur de toutes choses. Et ils ont mis petit d, ce n'est pas pour rien, juste pour soutenir les doctrines religieuses, pour dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et puis encore, peut-être cela va vous surprendre, nous avons également des faux Jésus dans beaucoup de religions, des faux Jésus que l'on présente aux hommes. Et le faux ne pouvant pas satisfaire, ces faux Jésus ne peut ni sauver, ni délivrer, ni donner la vie éternelle. Et je vous invite tout simplement à rester à l'écoute.
Les ténèbres envahissaient ma vie. J'étais aveuglé par le mensonge. Mais tout a changé parce que je t'ai connu. Ma vie a été transformée et je voudrais crier que toi, Jésus, tu es la lumière du monde. Tu es le soleil. espoir. Jésus est mort pour toi. Il veut transformer ta vie.
Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 3 et 4, il est écrit. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient et vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc dans ces deux versets, la Bible nous fait clairement comprendre que il y a plusieurs esprits dans le monde. Donc en dehors du Saint-Esprit du Dieu vivant, il y a les faux esprits. Oui, il y a les faux esprits. Donc beaucoup ont l'esprit qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit du Dieu vivant. Par exemple, la puissance que les féticheurs, les marabouts et les sorciers travaillent avec, c'est une puissance qui ne vient pas de Dieu, c'est une puissance qui vient du monde des ténèbres, qui vient de Satan. La Bible nous parle également qu'il y a plusieurs évangiles. Si quelqu'un vous prêche même un autre évangile, donc il y a même plusieurs évangiles. Dans toutes les religions du monde, il y a l'évangile. Il y a plusieurs évangiles. Mais il n'y a qu'un seul évangile biblique, un seul évangile qui sauve. Donc il y a l'évangile que vous pouvez écouter tous les jours que Dieu a créé, mais cet évangile ne peut pas vous sauver. Parce que cet évangile-là n'est pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a vraiment beaucoup de religions sur la terre. Et chaque religion prêche sa part d'évangile. Mais malheureusement, ce genre d'évangile ne peut sauver personne. Parce qu'il n'y a qu'un seul vrai évangile qui peut sauver les hommes. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et Satan est allé très loin jusqu'à créer les faux Jésus. Parce que la Bible nous dit ici au verset 4 de 2 Corinthiens chapitre 11, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, vous le supportez fort bien. Donc ça veut dire qu'en dehors du vrai Jésus-Christ de la Bible, il y a des faux Jésus. Des Jésus qui n'ont rien à voir avec le vrai Jésus de la Bible. Et sans plus tarder, je vais prendre quelques exemples des Jésus que l'on présente aux hommes sur la terre. Les Jésus qui n'ont absolument rien à voir avec le vrai Jésus de la Bible. Par exemple, l'enfant Jésus. Oui, c'est Jésus qui est toujours enfant. Chaque année, ce Jésus n'est pas du tout un Jésus biblique. Ce Jésus que l'on doit aller attendre chaque 24 décembre à minuit n'est pas un Jésus de la Bible. C'est vrai. Jésus est né il y a plus de 2000 ans. Mais il n'est plus du tout enfant. Il n'est plus du tout bébé. Parce que l'enfant Jésus, lorsqu'on parle d'un enfant, d'un bébé, nous savons tous qu'un bébé ne peut rien faire. Au contraire, il est dans le besoin. Il a besoin du lait. Il a besoin que l'on s'occupe de lui. Il a besoin que l'on prenne soin de lui. Parce qu'il est encore bébé. Donc ce Jésus ne peut sauver personne, ne peut délivrer personne. Oui, c'est pour cette raison que beaucoup dans les milieux religieux qui suivent que ce Jésus, leur vie ne change jamais. Et ils ne seront jamais sauvés parce que ce Jésus ne peut pas sauver. Parce que le vrai Jésus de la Bible, il n'est plus un enfant. Le vrai Jésus, le Jésus de la Bible, actuellement même que je suis en train de vous parler, il est assis sur un trône très élevé dans les cieux. Il est le maître de l'univers. La Bible nous dit qu'un jour, il a dit à ses disciples avant de monter dans les cieux, j'ai les pleins pouvoirs dans les cieux et sur la terre. Voilà le vrai Jésus de la Bible. Le vrai Jésus de la Bible n'est plus du tout enfant. Il n'est plus du tout enfant. Et en passant, je voudrais même vous dire que la fête de Noël que l'on a attribuée à la naissance du Seigneur Jésus-Christ n'est pas biblique. C'est une fête purement païenne et mondaine. Cette fête n'a pas de fondement biblique. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été né le 25 décembre et la Bible n'a jamais demandé que l'on célèbre même sa naissance. Donc c'est une fête qui n'est pas biblique. Il faut vraiment le savoir. Et je précise parce que lorsqu'on habitue nos enfants à des mensonges au nom de Dieu, je crois que ce n'est pas très sage, ce n'est pas très intelligent. Lorsque nos enfants grandissent dans le mensonge, ce n'est pas du tout bien, surtout le mensonge au nom de Dieu. Je vois que c'est même très, très, très grave. Et dans Apocalypse, chapitre 22, Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Chapitre 22, à partir du verset 10, il est écrit, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 13, je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent les robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis l'étoile brillante du matin. Donc voilà le Seigneur Jésus-Christ de la Bible qui dit qu'il revient bientôt, il revient pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Vous voyez, le Jésus enfant n'a rien à voir avec ce vrai Jésus de la Bible.
Le monde dit
Amen.
Alléluia.
Amen.
Encore une fois.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Du fond du cœur tu dis
Amen.
Alléluia.
Amen.
Jésus est Seigneur. Tout le monde dit le roi des rois, l'alpha et l'oméga.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Très chers auditeurs, nous sommes en train de voir les Jésus qui n'ont rien à voir avec le vrai Jésus de la Bible. Le Jésus de la croix. Le Jésus toujours suspendu sur une croix n'est pas non plus le Jésus de la Bible. Oui, parce que dans beaucoup de milieux religieux, dans beaucoup de temples religieux, on voit des croix avec un bonhomme dessus et on fait croire aux gens que c'est Jésus. C'est vrai que Jésus a été crucifié, mais il n'est plus sur la croix. Il n'est plus du tout sur la croix. Et d'ailleurs, en passant, je vais vous dire que dans Deutéronome, chapitre 4, à partir du verset 15, Dieu a interdit de façon formelle de faire les représentations des choses du ciel. Vous pouvez lire Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 15. Dieu a formellement interdit de faire des représentations, les figures d'hommes et des femmes en ce qui concerne les choses de Dieu, en ce qui concerne les choses du ciel. Donc les figures des maris, les statues des maris, les figures de Jésus que l'on représente dans certains milieux religieux ou bien sur des photos, ou bien sur des objets, la Bible a formellement interdit cela. La Bible appelle cela de l'idolâtrie. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 4, à partir du verset 23, que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Oui, que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs que Dieu recherche. C'était juste en passant. Je disais tantôt que le Jésus toujours suspendu sous une croix n'est pas non plus biblique. Parce que le vrai Jésus a été crucifié, c'est vrai. Mais il n'est plus sur la croix. On l'a descendu de la croix. On l'a même mis dans une tombe. Mais 3 jours après, il est ressuscité des morts. Oui. Et laissez-moi vous dire que ce bonhomme que vous voyez jusqu'à présent, sur une croix, c'est un brigand. C'est un bandit. Et pour soutenir ce que je suis en train de dire, le jour qu'on a crucifié le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il y avait un brigand à gauche, l'autre à droite. Et le Seigneur Jésus-Christ était au milieu. Et ces brigands sont mis à se moquer du Seigneur Jésus-Christ et à l'insulter même. Mais à un moment donné, l'un des brigands est revenu à lui-même. Et il a commencé à reconnaître en Jésus le Messie. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu vas revenir dans ton règne. Donc il savait même que Jésus-Christ était un roi et qu'il va revenir. Le Seigneur Jésus-Christ lui répond, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc ce brigand qui s'est repenti, après sa mort à la croix, son âme s'est retrouvée au paradis avec le Seigneur. Par contre, l'autre brigand qui a refusé de se repentir est resté à la croix. Ce bonhomme qui est resté à la croix, c'est ce bonhomme que les gens ont aujourd'hui sur des crucifixes et sur des poteaux, sur des croix, dans beaucoup de temples religieux ou dans certains carrefours. Et ils croient que c'est le Jésus de la Bible, le Seigneur Jésus-Christ de la Bible n'est plus sur la croix. Et si le Seigneur Jésus-Christ était toujours sur la croix, c'est qu'il ne peut pas sauver. Oui, parce que imaginez, s'il est toujours attaché à la croix, il ne peut pas ni guérir, ni délivrer, ni sauver, parce qu'il est toujours condamné à la croix. Et ceux qui suivent ce Jésus, toujours crucifié, toujours à la croix, ne peuvent jamais être ni délivrés, ni sauvés, parce que ce Jésus ne peut rien faire. Ce n'est plus un Jésus biblique. Mais le vrai Jésus-Christ n'est plus sur la croix. Lorsque les femmes vont venir pour chercher son corps même dans la tombe, la Bible va dire dans Luc chapitre 24, à partir du verset 6, la Bible nous dit que les anges vont apparaître à ces femmes. Elle a dit, il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Donc le Seigneur Jésus-Christ n'est plus sur la croix, n'est pas non plus dans la tombe, mais il est ressuscité. Voilà le Jésus de la Bible.
Que cela puisse exister, c'est l'événement le plus extraordinaire, si incroyable qu'on ne peut l'expliquer. Oh, ça aurait pu être un fait divers, mais on en entend toujours parler. Il était bien mort, on l'avait crucifié devant des milliers d'hommes. Son cœur s'est arrêté. Troisième jour, il est ressuscité. Plus fort que la mort, il vit à jamais. Ressuscité. Jésus est vivant. Ressuscité. Il vit à jamais. Le diable croyait avoir gagné lorsqu'il a vu Jésus crucifié. Pour être sauvé, nous soyons tous prisonniers. Mais Jésus est le grand vainqueur. Il a gagné, gagne le combat. Le mal est battu, le mal.
le diable a perdu, Jésus a vaincu. Il a triomphé, il est maître et seigneur. C'est la victoire absolue, ressuscité. Jésus est vivant. Le premier jour, le tombeau était fermé, une grosse pierre cachait l'entrée. Le deuxième jour, le tombeau était toujours fermé et la pierre n'avait pas bougé. Mais le troisième jour, le plus beau des miracles, le tombeau était vide. L'ange dit, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, ressuscité. Jésus est vivant.
Jésus, mon sauveur, oh Jésus.
Chers auditeurs, ce que je vais dire maintenant risque de choquer certains parmi vous. Il y a également un Jésus qui n'est pas le Jésus de la Bible. Oui, il y a un Jésus qui s'est marié à une certaine Marie Magdalene. Un livre a été écrit et même le film de ça est sorti. C'est vraiment choquant. C'est Jésus qui s'est marié à Marie Magdalene et qui a même eu des enfants. Il y a également un Jésus homosexuel. Oui, j'ai un livre dans lequel quelqu'un, pas n'importe qui, pour soutenir ses pratiques, est en train d'affirmer à plusieurs reprises, en soutenant même pas des versets bibliques, que Jésus-Christ était homosexuel. C'est vraiment grave, très grave. Vous voyez pourquoi je vous ai dit qu'il y a des faux Jésus. Et tous ceux qui suivent ce Jésus homosexuel, ils sont plongés dans des pratiques mystiques, occultes, sataniques. Et ce n'est pas surprenant. Et ce qui est grave, c'est que beaucoup suivent ce Jésus sur la terre, ce Jésus homosexuel. Et pas étonnant de les voir être dans des cercles vraiment mystiques, les cercles sataniques. Pas étonnant de les voir être des corrompus et des corrupteurs. Pas étonnant de les voir être des grands détourneurs de fonds publics. Et ils ne sont pas du tout des modèles pour nos jeunes, pour nos enfants et pour notre société. Ils ne sont pas du tout des repères. Parce que les Jésus qu'ils suivent n'a rien à voir avec le vrai Jésus de la Bible. Oui, Jésus, le Jésus homosexuel. Je voudrais profiter pour m'adresser à tous ceux-là qui se sont fait avoir par Satan jusqu'à ce niveau, jusqu'à franchir la ligne rouge. Vous qui suivez ce Jésus homosexuel, je vous recommande au nom du Seigneur Jésus-Christ de vous repentir et d'abandonner ce faux Jésus pour suivre le vrai Jésus de la Bible. Répentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Parce que lorsque quelqu'un croit au vrai Jésus de la Bible, même s'il est un ministre, même s'il est une autorité, c'est un homme exemplaire. Il sait que c'est Dieu qui l'a établi pour gérer les choses selon lui. Il ne doit pas être un détourneur de fonds publics, il ne doit pas être un corrupteur, il ne doit pas être corrompu non plus. Donc partout, même dans des nations où on a vu même des présidents et autres croire réellement au vrai Jésus, en réalité, dans les actes au quotidien, tout le monde peut voir qu'ils ont vraiment cru au vrai Jésus, le Jésus de la Bible, le Jésus qui pardonne les péchés, le Jésus qui délivre et le Jésus qui sauve et surtout qui transforme même. Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et il y a également un Jésus qui n'a jamais été crucifié. Oui, il y a beaucoup de croyants sur la terre. C'est l'une des grandes religions de la terre. Dans leurs livres, le Jésus de la Bible, du moins selon eux, le Jésus de la Bible n'a jamais été crucifié. Leur Jésus n'a jamais été crucifié. Et il ne pouvait pas être crucifié parce qu'il était un très grand prophète tout puissant. Dieu ne pouvait pas laisser que ce Jésus soit crucifié. Mais ces personnes, ces gens ignorent une chose. Si le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un hasard, parce que tout cela avait été déjà prédit d'avance. Plus de 600 ans avant que cela ne se réalise, par la bouche particulièrement du prophète Ésaïe, Ésaïe 53. Vous pouvez lire le chapitre d'Ésaïe 53. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour accomplir une mission, particulièrement aller se donner à la croix. La Bible nous dit que il a été mis au nombre des malfaiteurs et qu'il a porté nos péchés à la croix. Tout cela est écrit dans Ésaïe 53, des centaines d'années avant que cela ne se réalise. Et Ésaïe 53 va aller jusqu'à dire que le Seigneur Jésus-Christ, sa tombe a été mise au milieu de celle des riches. Et nous savons que c'est un certain riche, Joseph d'Arimathée, qui a demandé le corps de Jésus pour mettre dans un sépulcre. Parce qu'il était riche, pour pouvoir avoir des sépulcres réservés quelque part. Voilà la parole de Dieu en train de s'accomplir. Et le jour qu'on est venu arrêter le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 26, la Bible nous dit que l'un de ses disciples a tiré l'épée pour essayer de le défendre. Il lui a carrément dit, remets ton épée. Parce que s'il fallait me défendre, même 12 légions d'anges pouvaient descendre dessus pour me défendre. Il faut qu'il en soit ainsi pour que les saintes écritures puissent s'accomplir. Et dans l'évangile de Jean chapitre 1, avant que Jésus ne meure, Jean-Baptiste avait dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans Matthieu chapitre 20, à partir du verset 17, la Bible nous dit qu'un jour, lorsque Jésus-Christ montait à Jérusalem avec ses disciples, il les a pris à part les 12 et il a commencé à leur dire que à Jérusalem, on va l'arrêter, on va se moquer de lui et on va même le crucifier. Mais 3 jours après, il ressuscita. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ avait même prédit sa mort. Il avait annoncé d'avance sa mort. Et dans Marc, l'évangile de Marc, chapitre 10, le verset 45, le Seigneur Jésus-Christ va dire qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Donc, vous qui pensez que Jésus-Christ ne pouvait pas être crucifié parce qu'il était un grand prophète et très puissant, ne raisonnez pas de la sorte. Le Seigneur Jésus-Christ, en mourant à la croix, était juste en train de porter nos péchés, de porter vos péchés, afin que vous n'ayez plus des sacrifices à faire pour être sauvés. Et les sacrifices que vous faites encore n'ont plus leur place parce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà offert une fois pour toutes pour porter vos péchés. Oui, le Seigneur Jésus-Christ de la Bible a bel et bien été crucifié pour porter nos péchés et nos malédictions.
Tu es le chemin, la vérité, la vie, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu m'as pardonné tous mes nombreux péchés. Aujourd'hui je suis léger grâce à toi. Parce que l'amour que tu as mis en moi, chaque jour me transforme grâce à toi. Et je trouve la vie bien plus belle comme ça, oh Jésus. Quand tu es au fond de mon cœur, Seigneur. Je veux t'aimer, je veux t'adorer. Garder ta parole, demeurer en toi, oh oui. Je veux t'aimer, t'aimer, je veux t'adorer, t'adorer. Garder ta parole, la garder, demeurer en toi, garder ta parole, demeurer en toi, oh oui. Je veux t'aimer, t'aimer, je veux t'adorer, t'adorer.
Nous sommes en train de parler de Jésus, des différents Jésus, de certaines sectes et de certaines religions qui n'ont absolument rien à voir avec le Jésus de la Bible. Il y a également un Jésus qui est prêché par une organisation religieuse très célèbre, qui n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible. Oui, il y a beaucoup qui marchent partout, qui distribuent des brochures par-ci, par-là, et pourtant le Jésus n'a absolument rien à voir avec le Jésus de la Bible et ils sont même implantés un peu partout sur la surface de la terre. D'ailleurs, j'ai jeté un coup d'œil dans la tour des gardes du 1er décembre 2010. À la page 9, il est écrit « Jésus est-il égal à Dieu ?» Et la réponse, c'est faux. Et dans la tour des gardes du 1er décembre 2010, à la page 9, il est dit que Jésus n'est pas égal à Dieu. Si c'est Jésus qui n'est pas Dieu, il n'est pas le Jésus de la Bible. Dans l'évangile de Jean, le premier chapitre, à partir du premier verset au verset 3, la Bible dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été créé par elle et rien de ce qui n'a été créé sans elle. Et au verset 14, la parole a été faite chair et a habité parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité. La Bible nous fait clairement comprendre que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair et a habité parmi nous. Le Seigneur Jésus-Christ est cette parole qui a été faite chair, qui a habité parmi nous. Jésus-Christ, c'est Dieu. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15 au verset 16, que le Seigneur Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Les Juifs n'avaient jamais vu leur Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu comme Dieu au milieu d'eux. Il a décidé de prendre la forme humaine. Juste parce qu'il voulait se donner à la croix pour nous racheter, parce que personne ne pouvait faire cela. Il a fallu que Dieu lui-même prenne la forme humaine pour venir au milieu des hommes, pour vivre au milieu des hommes et surtout pour les racheter. J'ai parlé tout à l'heure des fausses Bibles. Dans cette Bible, ce Dieu est écrit avec un petit d. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était un Dieu. Voilà ce qui est écrit dans cette Bible, juste pour soutenir que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et ils ont falsifié ce verset sans justification. D'ailleurs, dans les Bibles, partout où certains versets font allusion à la divinité de Jésus-Christ, ils ont falsifié cela pour mettre autre chose. Jésus-Christ de la Bible est Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 43, le verset 11, nous sommes dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ n'était même pas encore venu. Ainsi parle l'Éternel. Moi, l'Éternel, je suis le seul sauveur. Hors de moi, il n'y a point d'autre sauveur. Nous sommes dans l'Ancien Testament, l'Éternel est en train de dire qu'il est le seul sauveur et que hors de lui, il n'y a point d'autre sauveur. Et si Jésus-Christ est le sauveur, ça veut dire qu'il est Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul sauveur pour sauver les hommes. Aucune créature ne peut sauver ses semblables. Et il a fallu que Dieu lui-même vienne sauver ses créatures en la personne de Jésus-Christ. Et dans Ésaïe 35, à partir du verset 4 au verset 5, l'Éternel dit qu'il viendra lui-même pour nous sauver. Les aveugles verront. Lorsqu'il viendra, les aveugles verront. Les sourds vont entendre. Les boiteux vont marcher. Et tout cela s'est réalisé avec la venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Les aveugles ont vu. Les sourds ont entendu. Les paralytiques ont marché. Ésaïe 35, dans l'Ancien Testament. Et dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, à partir du verset 8, l'Évangile de Jean. Chapitre 14, à partir du verset 8, il est écrit... Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Verset 11, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ, c'est tellement clair. Le Seigneur Jésus-Christ dit que celui qui l'a vu a vu le Père en lui et il est dans le Père. Jésus-Christ est Dieu. Voilà le Jésus-Christ de la Bible. Et Jésus-Christ a également dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc partout où les gens se rassemblent ou s'assemblent au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ a promis d'être au milieu d'eux. C'est-à-dire que en ce moment même que je suis en train de vous parler, si les gens sont assemblés en son nom, à Bangaté, à Palengou, à Basunga, en Australie, en Inde, le Seigneur Jésus-Christ est au milieu d'eux, au même moment. Ça veut dire qu'il est omniprésent. Il n'y a que Dieu pour être omniprésent, pour être partout, au même moment. Il n'y a que Dieu. Alors si le Seigneur Jésus-Christ peut être au milieu des gens qui s'assemblent en son nom, au même moment sur toute la surface de la terre, ça veut dire qu'il est Dieu. Il est omniprésent. Voilà le Jésus de la Bible. Et il a dit à ses disciples, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc le Seigneur Jésus-Christ est avec chaque croyant, chaque chrétien authentique. Tous les jours, n'importe où que tu te trouves, si tu as réellement donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il est avec toi. Imaginez, s'il y a 1 milliard de chrétiens sur la terre, de vrais chrétiens, et que le Seigneur Jésus-Christ est avec chaque chrétien, là où il se trouve, partout où il est, pour l'accompagner, pour le protéger, ça veut dire qu'il est Dieu. Ça veut dire qu'il est Dieu parce qu'il est omniprésent.
Alléluia. Alléluia.
Amen.
Du fond du cœur.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Jésus est Dieu, tout le monde dit.
Amen.
Alléluia. Peut-être
c'est bien fait.
J'irai jusqu'au bout du monde, crier son amour. Christ est mort pour toi et pour moi, à la croix du calvaire, chantons et disons
amen,
amen, amen, amen. Jésus est Seigneur. Tout le monde dit
Amen.
Alléluia.
Amen.
On acclame le roi des rois, l'alpha et l'oméga.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Tape la main pour louer le roi des rois.
Amen.
Il est le Dieu vivant, l'alpha et l'oméga.
Amen.
Il est le sauveur de l'humanité.
Amen.
L'ancien des jours.
Amen.
Alléluia.
Amen.
C'est lui, le vrai Dieu.
Amen.
Très chers auditeurs, nous sommes presque à la fin de notre émission. Mais avant de nous séparer, il faut retenir ceci. Ce n'est pas parce que il y a les faux produits sur le marché. Oui, ce n'est pas parce qu'il y a la contrefaçon ou le faux que ça veut dire qu'il n'y a pas le vrai ou l'original. Le vrai, l'original existe toujours. Il y a beau avoir les faux, la contrefaçon, l'original existera toujours. Parce que s'il y a le faux, c'est parce qu'il y a l'original. S'il y a la photocopie, c'est parce qu'il y a l'original. Le vrai Jésus de la Bible est unique. Unique de par sa naissance. C'est le seul enfant qui a été adoré dès sa naissance. Oui, dans Matthieu chapitre 2, à partir du premier verset au verset 18. Le seul enfant qui a été vénéré et adoré alors qu'il était encore tout bébé. Le seul enfant qui a fait trembler même un roi, le roi Hérode. Parce qu'il était unique. Oui, unique de par sa naissance. Il a été conçu miraculeusement par le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ de la Bible est unique de par sa vie. C'est le seul homme qui a vécu sur notre planète sans péché. Le seul homme juste et parfait dans toutes ses voies. Un jour, il pouvait dire à ses détracteurs, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Et personne ne pouvait convaincre Jésus de péché parce qu'il était sans péché. Parfait dans toutes ses voix et dans toutes ses paroles. Jésus-Christ était unique. Jésus-Christ est unique de par sa puissance. Et il a manifesté sa puissance en délivrant les démoniaques, les possédés. le Seigneur Jésus-Christ a même ressuscité les morts. Le Seigneur Jésus-Christ a même ressuscité les morts. Et le Seigneur Jésus-Christ a affronté également la mort et il a vaincu la mort. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est unique de par sa résurrection d'entre les morts. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 8, le verset 12, le Seigneur Jésus-Christ dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voilà le Seigneur Jésus-Christ de la Bible. Si vous le suivez à partir d'aujourd'hui, mais vous n'allez plus marcher dans les ténèbres, mais vous allez avoir la lumière de la vie. Et dans Romains, chapitre 10, à partir du verset 9 au verset 11, la Bible dit que si tu crois dans ton cœur que le Seigneur Jésus-Christ est vraiment mort et qu'il est également ressuscité, si tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Et que quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ ne sera point déçu. Oui, le Seigneur Jésus-Christ de la Bible ne déçoit jamais. Parce qu'il y a des Jésus que vous pouvez suivre toute votre vie et étant toujours déçu d'une manière ou de l'autre parce que ce Jésus ne peut ni vous pardonner, ni vous délivrer, ni vous sauver. Il se peut que ça ne soit pas le vrai Jésus de la Bible. Mais le vrai Jésus de la Bible pardonne, délivre. Le vrai Jésus sauve. Et il a dit que quiconque croit en lui ne sera point déçu. Et dans le psaume 45, le verset 3, il est écrit que Jésus-Christ est le plus beau des fils de l'homme. Et quand la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est le plus beau, c'est qu'il est vraiment beau. Pas seulement beauté physique, beauté, la vraie beauté, la plus beauté. Et tous ceux qui se tournent vers Jésus ne peuvent que contempler la gloire de Dieu dans leur vie. Et j'ai fait un clin d'œil comme ça à toutes les jeunes filles et à toutes les femmes. Je sais que vous aimez. Je sais que vous aimez les beaux garçons, de beaux hommes. Imaginez un peu, la Bible dit que quelqu'un est le plus beau de toutes les créatures. Donc Jésus-Christ est le plus beau, le plus galant des fils de l'homme. Donc il n'y a aucun yor sur la terre qui puisse être beau comme Jésus. C'est pour cela que lorsqu'une jeune fille rencontre vraiment le Seigneur Jésus-Christ, elle se rend compte que Jésus-Christ est vraiment l'homme le plus beau, le plus galant de l'univers. Et aucun yor ne peut plus tourner autour d'elle n'importe comment. Jésus est le plus beau des fils de l'homme. Jésus-Christ est le plus galant, le plus chaud des fils de l'homme. C'est pour cela que ceux qui acceptent réellement ce Seigneur Jésus-Christ en esprit, en vérité, ceux qui ont réellement fait l'expérience de la nouvelle naissance que le Seigneur Jésus-Christ les accorde, ils ne peuvent plus facilement abandonner ce Seigneur. Parce qu'ils voient que le Seigneur est vraiment le plus beau, le plus galant, oui, le plus beau des fils de l'homme. Oui, c'est pour cela que beaucoup de femmes préfèrent même épouser ce Jésus. Beaucoup préfèrent se consacrer à ce Jésus. Même s'il faut vivre sans se marier et servir ce Seigneur Jésus, certaines femmes sont capables de le faire. Jésus, le plus beau des fils de l'homme, le plus beau des hommes. Voilà le Jésus de la Bible. Voilà le vrai Jésus de la Bible. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est le plus beau des fils de l'homme. Et la beauté n'est pas seulement physique, mais la beauté dans toute sa splendeur à tous les niveaux. 845, le verset 3, Jésus-Christ est le plus beau des fils de l'homme. Et il a sur sa bouche les paroles de grâce. Et il est béni éternellement. Et le Seigneur Jésus-Christ de la Bible reviendra également un jour pour juger les vivants et les morts. Le Seigneur Jésus-Christ également est le nom. Le seul nom. Le seul nom. Devant lequel tout genou va fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera qu'il est Dieu. Philippiens chapitre 2. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous as donné l'opportunité en ce jour de parler de toi. En esprit et en vérité. Et je te prie vraiment que toi-même tu puisses te révéler à toutes ces multitudes qui ne te connaissent pas encore. Toi, le vrai Jésus, le Jésus de la Bible, le Jésus qui pardonne, le Jésus qui délivre, le Jésus qui sauve, le Jésus qui guérit. Seigneur, je prie que tu puisses toi-même vraiment te révéler à tous ces auditeurs, te révéler à ceux-là qui te cherchent. Seigneur, afin qu'ils ne puissent pas tomber entre les griffes, Seigneur, de l'ennemi qui va les présenter un faux Jésus qui n'est pas vraiment toi le vrai Jésus. Seigneur Jésus, merci infiniment parce que je crois que tu es tout puissant. Tu n'as pas changé. Il est écrit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait dans le passé, tu le fais encore aujourd'hui et tu le feras éternellement. Seigneur, touche particulièrement les cœurs de ceux qui ont écouté ce message avec foi. Seigneur, ceux qui sont malades, ceux qui sont possédés d'une manière ou de l'autre, ceux qui sont même fatigués, Seigneur, je prie que tu agisses dans leur vie maintenant même. Agis dans leur vie, Seigneur. Agis dans leur vie pour montrer que ton nom est vraiment le seul nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés. Le nom qui délivre, le nom qui guérit, le nom qui sauve, le nom qui restaure, le nom qui est au-dessus de tous les noms dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Oui, vous tous qui m'écoutez, très chers auditeurs, si vous êtes malades, si vous êtes souffrant d'une manière ou de l'autre, recevez la délivrance, recevez la guérison, recevez la restauration au nom puissant et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que je crois que tu vas agir, tu vas continuer à agir au-delà même de tout ce que je peux te demander, et que toute la gloire te revienne à toi et rien que à toi seul. Amen.
Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je mérite rien. De toi, Jésus, je veux me rapprocher de toi, Jésus, je veux goûter à ta présence, rapprocher de toi, je veux me rapprocher de toi, Jésus, je veux goûter à ta présence. Je mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Oh, je veux me rapprocher. Je veux me rapprocher. De toi, Jésus.
Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros des 00 237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit N-J-E-N-D-J-I. rodrigue.genji@yahoo.fr. N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteurrodrigue.com. C'était l'heure de la vérité. L'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et vous tous qui m'écoutez, où que vous soyez, je ne le dirai jamais assez, le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Oui, le vrai bonheur, c'est dans la sainte présence du Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.